Chapitre 88. Là d'où je suis, je souris, car ma vie fut belle, et surtout, j'ai aimé. Philippe Toussaint n'est jamais revenu, et Sacha est resté chez Madame Bréhand. Avant de savoir, le jour où j'ai ouvert la valise bleue pleine de cadeaux, j'ai dit à Sacha que l'homme avec qui je partageais ma vie, sans jamais l'avoir vraiment partagé, était sans doute bien meilleur qu'il ne l'avait laissé paraître. Avant de savoir, j'ai dit à Sacha que celui que je ne pensais qu'égoïste, que je n'écoutais et ne regardais plus, celui qui m'avait abandonné, plongé dans une solitude abyssale, m'était apparu sous un autre jour, quand je l'avais vu dans un bistrot mâconnais avec Swann Le Tellier. Avant de savoir, j'ai dit à Sacha que ce soir-là, en revenant de Mâcon, Philippe Toussaint m'avait raconté qu'il cherchait la vérité sur le déroulement des événements, qu'il avait interrogé, parfois persécuté le personnel du château. Au procès, il n'avait cru personne, à part Héloïse Petit. Elle, il ne l'avait pas encore retrouvée. Mon mari m'avait raconté Alain Fontanelle et les autres. Je lui avais pris la main de peur de tomber alors que nous étions allongés côte à côte dans notre lit. J'avais imaginé les mots et les visages de ceux qui, pour la dernière fois, avaient vu ma fille vivante. Ceux qui n'avaient pas su prendre soin d'elle, de son sourire. Ceux qui avaient fait preuve de négligence. Les petites restaient seules pendant que la monitrice et le cuisinier étaient à l'étage, en train de forniquer et fumer des pétards. Geneviève Magnan partit, laissant les enfants sans surveillance. La directrice, du genre à mettre la poussière sous le tapis, juste bonne à encaisser l'échec des parents. Pour ne pas succomber quand il m'avait rapporté les mots de Fontanelle, l'histoire du chauffe-eau défectueux, de l'asphyxie, je m'étais concentrée sur le parfum de la nouvelle lessive que j'avais utilisée pour laver nos draps la veille. Vandalisé. Pour ne pas hurler dans notre lit, je m'étais passé et repassé en boucle les dessins sur ce baril de lessive, des fleurs de tiare rose et blanche. Ces fleurs m'avaient emmené dans les motifs des robes de Léonine. Ces robes étaient comme des tapis volants imaginaires que je prenais quand le présent devenait trop insupportable. Toute la nuit, j'avais respiré l'odeur de mes draps propres en écoutant Philippe Toussaint me parler pour la presque première fois. Avant de savoir, j'avais à nouveau caressé son visage et nous avions fait l'amour comme nous le faisions, jeunes, quand ses parents débarquaient chez nous sans prévenir. Avant de savoir. Avant de savoir qu'il avait couché avec Geneviève Magnan quand nous vivions à Malgrange-sur-Nancy, je l'avais cru pour la presque première fois. Philippe Toussaint n'est jamais revenu et Sacha est resté chez Madame Bréhand. Après un mois d'absence, en 1998, je suis allée à la gendarmerie pour déclarer la disparition de mon mari. J'y suis allée sur les conseils de Monsieur le maire. Sinon, je ne me serais pas déplacée. Le brigadier qui m'a reçue a fait une drôle de tête. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour signaler une disparition? Parce qu'il partait souvent. Il m'a emmenée dans un bureau attenant à l'accueil pour remplir un formulaire et m'a offert un café que je n'ai pas osé refuser. J'ai fait son signalement. L'officier de police m'a demandé de revenir avec une photo. Nous n'en avions pas fait depuis notre arrivée au cimetière. La dernière était celle de Malgrange-sur-Nancy, où il avait passé son bras autour de ma taille pour faire risette aux journalistes. Le brigadier m'a demandé d'indiquer la marque de sa moto, les vêtements qu'il portait la dernière fois que je l'avais vu. Un jean, des chaussures de moto en cuir noir, un bomber noir et un pullover rouge à col roulé. Un signe particulier, tatouage, tache de naissance, grain de beauté visible? Non. Est-ce qu'il a emporté des affaires, des papiers importants qui laisseraient supposer une absence prolongée? Ses jeux vidéo et les photos de notre fille sont toujours à la maison. Est-ce que son comportement ou ses habitudes avaient changé ces dernières semaines? Non. Je n'ai pas dit à l'officier de police que la dernière fois que j'avais vu Philippe Toussaint, il devait se rendre sur le lieu de travail d'Héloïse Petit à Valence. Il avait retrouvé sa trace. Elle était ouvreuse dans un cinéma là-bas. Il lui avait téléphoné depuis la maison. Elle lui avait donné rendez-vous le jeudi de la semaine suivante à 14h devant le cinéma. Ce jour-là, Héloïse Petit avait appelé dans l'après-midi. Elle avait dû retrouver le numéro d'où Philippe Toussaint l'avait contacté. En décrochant, je pensais que c'était la mairie, le service des avis de décès. C'était l'heure à laquelle il m'appelait régulièrement pour m'informer ou me demander des renseignements à propos d'un enterrement passé ou à venir, d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance, d'un caveau, d'une allée. Quand Héloïse Petit s'était présentée, sa voix tremblait. Je n'avais pas compris ces mots tout de suite. Quand j'avais fini par saisir qui elle était, le sens de son appel, mes mains étaient devenues moites, ma gorge sèche. Il y a eu un problème ?
Un problème ? Monsieur Toussaint n'est pas là. Nous avions rendez-vous à 14h, je l'attends depuis 2h devant le cinéma.
N'importe qui aurait imaginé un accident, aurait appelé tous les hôpitaux entre Mâcon et Valence. N'importe qui aurait dit à Héloïse Petit « Où tu étais la nuit où la chambre 1 a brûlé ? Tu roupillais tranquille juste à côté ?» Mais je lui avais répondu qu'il n'y avait rien à comprendre. Philippe Toussaint était et serait toujours imprévisible. Il y avait eu un long silence à l'autre bout du fil et Héloïse Petit avait raccroché. Je n'ai pas dit au brigadier que 7 jours après l'envol de Philippe Toussaint, 7 jours après ce rendez-vous avec Héloïse Petit auquel il n'était pas allé, une jeune femme était venue se recueillir sur la tombe des enfants, de mon enfant, et que, bouleversée, elle s'était retrouvée, comme bien d'autres visiteurs, à acheter des fleurs et boire quelque chose de chaud chez moi. Quand j'avais vu cette jeune femme derrière ma porte, je l'avais reconnue immédiatement. Lucie Lindon. Sur la photo que j'avais conservée, elle était plus jeune, en couleur et souriante. Dans ma cuisine, elle était blanche et cernée. Je lui avais fait du thé dans lequel j'avais versé de grosses larmes d'eau-de-vie, drôle de paradoxe quand j'aurais voulu y mettre de la morora. Je lui avais fait boire une tasse et un petit verre d'alcool. 2 petits verres d'alcool, puis 3. Et comme je l'espérais, elle avait fini par s'épancher. J'ai toujours les marques de mes ongles à l'intérieur de ma main gauche, celles que je me suis faites quand Lucie Lindon a parlé. Mes lignes de vie sont recouvertes par des cicatrices depuis ce jour. Je me souviens du sang séché dans ma paume, mon poing serré pour qu'elle ne voie pas, qu'elle ne sache jamais. Lucie Lindon m'a raconté qu'elle faisait partie du personnel du château de Notre-Dame-des-Prés. Vous savez, cette colonie de vacances où tout a brûlé il y a 5 ans. Les 4 enfants sont enterrés ici. Depuis le drame, je ne dors plus. Je revois les flammes. Depuis le drame, j'ai toujours froid. Elle a continué à parler. Et moi, j'ai continué à la servir. Le poing gauche serré, mes ongles enfoncés dans ma chair. Je souffrais trop pour sentir la douleur physique. Après avoir soliloqué, elle a fini par lâcher que la pauvre Geneviève Magnan avait eu une liaison avec le père de la petite Léonine Toussaint. Une liaison ? J'ai eu comme un goût de fer dans la bouche, un goût de sang, comme si je venais de boire de l'acier, mais je suis parvenue à répéter « une liaison ?» Ce sont les derniers mots que j'ai prononcés devant Lucie Lindon. Après, je me suis tue. Après, elle s'est levée pour partir. Elle m'a fixée. D'un revers du bras, elle a essuyé les torrents de larmes qui lui sortaient par les yeux, le nez et la bouche. Elle a reniflé bruyamment et j'ai eu envie de la frapper. Oui, avec le père de la petite Léonine Toussaint. Ça s'est passé 1 ou 2 ans avant le drame, quand Geneviève travaillait dans une école, du côté de Nancy, je crois. Je n'ai pas dit au brigadier que j'avais hurlé ma haine et ma douleur dans les bras de Sacha quand j'avais compris que c'était Magnan qui avait assassiné 4 enfants pour se venger de lui, de nous, de notre fille. Je ne lui ai pas dit que Philippe Toussaint avait interrogé le personnel du château dans lequel notre enfant avait trouvé la mort, et ce après le procès, parce qu'il ne croyait plus personne, et pour cause. Il devait chercher par tous les moyens à se dédouaner. Ce n'était pas un coupable qu'il cherchait, c'était la preuve de sa non-culpabilité. Enfin, le brigadier m'a demandé si Philippe Toussaint aurait pu avoir une maîtresse. Beaucoup ? Comment ça, beaucoup ? Mon mari a toujours eu beaucoup de maîtresses. Il y a eu un malaise. Le brigadier a hésité avant d'inscrire sur son formulaire que Philippe Toussaint se tapait tout ce qui bougeait. Il a un peu rougi et m'a resservi une tasse de café. Il m'appellerait s'il avait du nouveau. Allait lancer un avis de recherche. Je n'ai pas revu cet homme jusqu'au jour où il a enterré sa mère, Josette Leduc, née Berthomier, 1935-2007. Il m'a souri tristement en me voyant. Quand j'ai su que Philippe Toussaint avait eu une liaison avec Geneviève Magnan, j'ai perdu Léonine une deuxième fois. Ses parents me l'avaient enlevée par accident, leur fils me l'a arrachée intentionnellement. L'accident est devenu meurtre. J'ai vandalisé mes souvenirs, cherché mille fois les matins où j'emmenais ma fille à l'école, les fins d'après-midi où j'allais la récupérer. J'ai tout fait pour me rappeler cette assistante maternelle au fond de la classe, dans un couloir, devant les porte-manteaux, dans la cour de récréation, sous le préau. Un mot, une phrase qu'elle aurait pu me dire, ne serait-ce qu'un bonjour ou un au revoir à demain. Il fait beau, couvrez-la bien qu'elle ne prenne pas froid. Je la trouve fatiguée aujourd'hui. Elle a oublié son cahier de vie de classe, celui avec le protège-cahier bleu. À la fête de l'école, entre les chansons et les serpentins, les échanges que Geneviève Magnan aurait pu avoir avec mon mari. Des regards, un sourire, un geste, une complicité silencieuse, celle des amants. J'ai cherché quand ils se voyaient, combien de temps. Pourquoi elle s'était vengée sur des enfants? Comment Philippe Toussaint avait bien pu la traiter pour qu'elle en arrive à commettre un tel acte? J'ai cherché à m'en cogner la tête contre les murs. Mais je n'ai rien trouvé. Comme une absence de moi-même. Je l'avais entrevue, pas vraiment regardée. Elle faisait partie des meubles de l'école dont les tiroirs m'étaient fermés à double tour. Pas fichu de te souvenir, Violette. Après avoir appris ça, cet inacceptable-là, Sacha m'a remplacée dans le quotidien du cimetière parce que je suis redevenue bonne à rien. Bonne à rester comme ça, assise ou couchée, hébétée, à chercher. S'il n'était pas revenu à ce moment-là de ma vie avec la valise bleue et des cadeaux, cette fois, Philippe Toussaint aurait eu ma peau. Sacha s'est à nouveau occupé de moi, pas pour m'apprendre à planter, mais pour résister à ce nouvel hiver qui s'abattait sur moi. Il m'a massé les pieds et le dos, il m'a fait chauffer du thé, des citrons à l'eau et des soupes. Il m'a cuisiné des pâtes et fait boire du vin. Il m'a fait la lecture et a repris le jardin là où il en était. Il a vendu mes fleurs, les a arrosées et a accompagné les familles endeuillées. Il a dit à Madame Bréant qu'il allait rester chez elle pour une durée indéterminée. Chaque jour, il me forçait à me lever, me laver, m'habiller, et il me laissait me recoucher. Il me montait des plateaux repas qu'il m'obligeait à avaler en maugréant « Tu parles d'une retraite que tu me fais vivre là ». Il mettait de la musique dans la cuisine en laissant la porte du couloir ouverte pour que je l'entende depuis mon lit. Et puis, comme tous les chats du cimetière, le soleil est entré jusque dans ma chambre, jusque sous mes draps. J'ai ouvert les rideaux, puis les fenêtres. Je suis redescendue dans la cuisine. J'ai fait bouillir l'eau pour le thé et j'ai aéré la pièce. J'ai fini par retourner au jardin. J'ai fini par changer l'eau des fleurs. J'ai à nouveau reçu les familles, leur ai servi quelque chose de chaud ou de fort à boire. J'ai beaucoup radoté. Tu te rends compte, Sacha, Philippe Toussaint couchait avec Geneviève Magnan. Toute la journée, je lui rabâchais les mêmes choses. Je peux même pas la dénoncer, elle est morte. Tu te rends compte, Sacha, elle est morte. Violette, tu ne dois plus chercher les raisons, sinon c'est toi que tu perdras. Sacha me raisonnait. Ce n'est pas parce qu'ils se connaissaient qu'elle s'en est pris à des enfants. C'est sans aucun doute une monstrueuse coïncidence, un accident, vraiment, juste un accident. Si j'ai rabâché, Sacha, lui, m'a convaincue. Si Philippe Toussaint a semé du mal, Sacha, lui, n'a fait que semer du bien. Violette, le lierre étouffe les arbres, n'oublie jamais de le tailler, jamais. Dès que tes pensées t'amèneront vers les ténèbres, prends ton sécateur et taille dans la petite misère. Philippe Toussaint a disparu en juin 1998. Sacha a quitté Brancion en Chalon le 19 mars 1999. Il est reparti une fois certain que j'avais intégré que le drame était accidentel et non intentionnel. Violette, avec ça dans le bide, cette certitude, tu vas pouvoir avancer. J'imagine qu'il est reparti au début du printemps pour être sûr que j'aurai tout l'été pour me remettre de son absence. Repousseront les fleurs. Il parlait souvent de son dernier voyage, mais dès qu'il l'évoquait, il sentait que je n'étais pas encore prête à le laisser partir. Il voulait reprendre un vol pour Bombay et descendre jusqu'au sud de l'Inde, à Amritapuri, dans le Kerala. Il voulait s'installer là-bas, comme chez Madame Bréan, pour une durée indéterminée. Sacha disait souvent « Aller jusqu'à ma mort dans le Kerala, près de Sani, est un vieux rêve. De toute façon, à mon âge, aucun rêve n'est jeune. Ils ont tous de la bouteille. » Sacha ne voulait pas être enterré à côté de Verena et ses enfants. Il souhaitait que son corps soit consumé sur un bûcher, là-bas, sur le Gange. J'ai 70 ans. J'ai encore quelques années devant moi. Je vais voir ce que je peux faire avec leur terre, comment je peux transmettre le peu que je sais des plantes. Et puis, je pourrai continuer à soulager les douleurs. Ces projets m'enchantent. Vous allez offrir vos mains vertes aux Indiens? À qui voudra les prendre, oui. Un soir, nous dînions tous les deux et nous parlions de John Irving, de l'œuvre de Dieu, la part du diable. J'ai dit à Sacha qu'il avait été mon docteur Larche personnel, mon père de substitution. Et il m'a répondu qu'un jour prochain, il allait me lâcher la main, qu'il sentait que j'étais prête, que même les pères de substitution devaient laisser leurs enfants partir. Qu'un matin, il ne viendrait pas à la maison pour m'apporter du pain frais et le journal de Saône-et-Loire. Vous ne partiriez quand même pas sans me dire au revoir? Si je te disais au revoir, Violette, je ne partirais pas. Tu nous imagines nous serrant dans les bras l'un de l'autre sur un quai de gare? Pourquoi chercher l'insupportable? Tu ne crois pas qu'on a déjà suffisamment donné au chagrin? Ma place n'est plus ici. Tu es jeune et il fait beau. Je veux que tu refasses ta vie. À partir de demain, je te dirai au revoir, chaque jour. Il a tenu sa promesse. Dès le lendemain, chaque soir, avant de repartir chez Madame Bréan, il me serrait dans ses bras en me disant « Au revoir Violette, prends soin de toi, je t'aime. » Comme si c'était la dernière fois. Et le lendemain, il revenait. Il posait la baguette et le journal sur ma table, entre les boîtes de thé et les magazines de fleurs, d'arbres et de jardins. Puis il échangeait avec les frères Luchini, Nono et les autres. Il s'en allait dans les allées avec Elvis pour voir les chats. Renseignait les visiteurs qui cherchaient une allée ou un nom, donnait un coup de main à Gaston pour désherber. Et le soir, après le dîner que nous prenions ensemble, il me serrait à nouveau dans ses bras en me disant « Au revoir Violette, prends soin de toi, je t'aime. » Comme si c'était la dernière fois. Ces « au revoir » ont duré tout l'hiver, et au matin du 19 mars 1999, il n'est pas venu. Je suis allée frapper chez Madame Bréan. Sacha était parti. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'il avait fait sa valise et en rentrant la veille au soir, il s'était résolu à réaliser son vieux rêve, celui qui avait le plus de bouteilles.